dans notre petit cirque ambulant. Il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. N'en parlons plus, mauvaise tête. Tiens, va donc voir la femme trompe. Pour lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme trompe. La femme trompe qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Laissons donc cette femme trompe qui a pourtant un beau tuba. Et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois. Pas du au bois, de l'hélicon. Eh bien, y a ton ami Ellie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon.
Bonsoir, en panne de sens, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. C'est une émission en direct. Nous sommes là, bien que ce soit au milieu de l'été. Nous ne prenons pas de vacances, sauf en août. Donc on prend des vacances. Mais on est bien là ce soir. Donc avec Sébastien à la régie.
Bonsoir tout le monde.
Léo qui le remplacera tout à l'heure, mais qui va nous parler.
Bonsoir.
Et Yann.
Salut, salut.
Eh bien... on va commencer par nos actus marquantes. Léo, tu commences ?
Oui, pourquoi pas. Alors, j'avais initialement prévu de parler aujourd'hui du petit scandale concernant le financement de la campagne de Marine Le Pen à la présidentielle, pour éviter le financement par la Russie notamment. Mais j'ai ensuite vu un article sur l'attentat meurtrier à Berlin samedi soir, et du coup, j'ai préféré parler de ça. Donc samedi soir, il y a une camionnette blanche qui a foncé dans la foule à la Gay Pride de Berlin, faisant une victime et au moins 29 blessés, dont certains graves. Le suspect a été abattu le lendemain par la police. Et voilà, un peu une mauvaise façon de finir mon week-end.
Ça t'a un peu cassé le moral ?
Un tout petit peu. Yann, est-ce que tu as une actu peut-être plus réjouissante ?
Alors, réjouissante, je dirais pas jusque-là, parce qu'en fait, je vais faire le service après-vente de ce que j'avais dit lors de la dernière émission, parce que j'avais donné les chiffres provisoires des morts pendant la première canicule de cet été. C'était des chiffres provisoires, et il se trouve qu'il y a quelques jours, Santé publique France a donné les chiffres définitifs de la canicule pour la période du 17 juin au 2 juillet, donc 16 jours consécutifs, pendant lesquels il y a eu 5764 décès en excès, toutes causes confondues. C'est plus 36%. Donc on est au-delà du tiers de quand même, c'est pas mal. Ça fait en moyenne 360 morts par jour, un peu plus, mais bon, on fait pas des virgules avec des gens, donc on va dire 360. 360 par jour, c'est beaucoup. Hein.
Oui, quand même.
Ouais, ouais. Ça fait... Alors, j'avais fait la comparaison avec un accident d'A380 la dernière fois. Là, ce sera plus des A350 ou des 777, si on aime les Boeing. C'est, oui, 360. Oui, c'est un avion qui tombe par jour, tous les jours en France. Juste pour la France.
Ou c'est 300 pilotes de Canadair.
360.
360 pilotes de Canadair chaque jour.
Oui, il n'y a pas 360 Canadair.
Ou si on est sur des classes de 35 élèves, comme c'était le cas quand j'étais élève, et ben, c'est 10 classes qui meurent par jour pendant 16 jours. Ça fait des fusillades scolaires assez coûteuses quand même. Voilà. Et donc Sébastien ?
Alors moi j'aurais bien aimé parler de la Russie, de l'emprunt du Rassemblement National, mais bon, pareil, c'est pas une actualité très intéressante, je plaisante. Sinon en fait moi je voulais partager une info qui a été révélée par Mediapart le 22 juillet dernier sur la députée macroniste de Loire-Atlantique, Sandrine Josseau. Il se trouve que cette députée a une fâcheuse tendance à confier à ses assistants et assistantes parlementaires des missions qui n'avaient rien à voir avec sa mission à elle de représentante du peuple, mais plutôt avec sa vie perso. Gérer ses rendez-vous chez le coiffeur, aller chercher son gosse et lui faire à manger, voire carrément lui prêter de l'argent et devoir se battre pour la faire rembourser. Voilà, non. Et vraiment, c'est hallucinant parce qu'effectivement, elle a demandé à ses employés, en fait, quelque part, l'employé de la République en tout cas, de lui prêter du fric en faisant parfois en contractant des emprunts eux-mêmes, et ensuite il a dû se faire tirer l'oreille pour qu'il les rembourse. Le tout en les traitant comme de la merde, en les épuisant, parce qu'elle en a usé quand même une quarantaine en 9 ans.
C'est un métier.
Ouais, elle a même diffusé sur l'un de ses assistants des rumeurs dégueulasses quand il a commencé à renacler devant le mélange des genres qu'elle lui imposait, juste avant de tenter de l'amadouer pour qu'il accepte de ne pas faire de vagues. Bref, c'est vraiment un charmant personnage. Et en fait, je me suis rendu compte, en creusant un peu le sujet, qu'elle ne fait que rejoindre une longue liste de députés centristes issus de la société civile, je fais beaucoup de guillemets avec les doigts, et qui se comporte en fait comme n'importe quel petit tyran patronal toxique. J'ai pas le temps de dresser la liste.
Si, je prends le temps.
Oui. Anne-France Brunet, accusée d'avoir agressé physiquement une ancienne assistante parlementaire en lui fracturant le pied. Laetitia Avia, objet d'une demi-douzaine de plaintes pour harcèlement au travail, humiliation sexiste, raciste et homophobe. Syra Silla, qui fait l'objet de 3 procédures prud'homales et d'une condamnation pour non-respect du temps de travail, licenciement sans motif et harcèlement moral. Nathalie Elimas, accusée de harcèlement moral et de maltraitance par 5 personnes. Et puis, voilà, on peut citer aussi...
Par 5 personnes, oui, ça...
Ça commence à faire, ouais.
On peut dire qu'il y a quand même une petite obstination, quoi.
Je pourrais en citer d'autres, hein, la liste est longue. Je peux juste quand même citer pour la fin Feu Muriel de Sarnez, qui était une ancienne proche de Bayrou et qui est morte il n'y a pas longtemps, qui en plus d'avoir été mis en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, était accusée par une ancienne assistante de l'avoir utilisée comme sa gouvernante, chargée de suivre notamment sa construction de sa maison sur une île grecque ou de gérer les vacances de ses neveux. Alors on va me dire qu'il y a beaucoup de femmes parmi ces gens-là. Mais peut-être que ses collègues masculins sont trop occupés par des affaires d'agression sexuelle, sans doute.
Oui, de viol, oui. Il y en a toute une belle collection aussi hein, au sein de la Macronie. Oui,
ouais, clairement. Est-ce que Luc, tu as peut-être des choses sympathiques ?
J'ai un sujet sur Amazon. Amazon a un procès actuellement, alors aux États-Unis, je crois. Il est accusé de forcer certains fournisseurs à monter leurs prix. Ce qui est un peu incroyable, parce qu'on se dit ils veulent toujours baisser les prix, mais ça, c'est la situation est la suivante. Amazon va vendre le produit du fournisseur à un certain prix, et des concurrents, comme de la grande distribution par exemple, eux ont négocié un prix plus intéressant, donc les vendent moins cher. Et donc, c'est pas que Amazon veut les vendre aussi peu cher que la concurrence, c'est que Amazon veut conserver ses marges, et donc force, en tout cas c'est l'accusation, c'est force ses fournisseurs à vendre plus cher à tous les concurrents pour que ils soient pas plus chers que les autres. Et on voit là, pour moi, c'est un sujet hyper intéressant parce que je connais un nombre de gens qui achètent sur Amazon en disant ah oui, mais Amazon, bon, c'est peut-être un peu des enfoirés, mais ça marche, on est remboursé, le service est là, c'est pas mon problème.
On nous a vendu aussi la concurrence libre et non faussée. Hein.
C'est ça, tout à fait. Et donc on voit les effets, une fois que la boîte est suffisamment grosse, bah, les fournisseurs ne peuvent pas lui dire non, parce que même s'ils ont d'autres clients, ils ne peuvent pas se passer d'Amazon, et donc ils sont obligés de céder. Donc on voit une belle illustration de comment... c'est pas cher, le service est là, se retourne contre le consommateur qui finalement se retrouve à payer plus cher que ce qu'il devrait. Voilà.
Eh ben... Très bien. c'est des actus réjouissantes.
Tout à fait.
Heureusement, on va aborder un sujet léger.
Amazon est en procès, c'est quand même plutôt bien, moi, je trouve.
C'est vrai.
On va aborder un sujet léger, heureusement, ce soir.
C'est ça. Alors, on va parler Coupe du Monde. Donc, on n'a pas parlé d'incendie. Il y a 15 jours, j'étais pas là, mais vous avez fait une super émission sur le réchauffement climatique.
Canicule, pas le réchauffement.
La canicule, pardon. Enfin,
pas exactement la même chose.
Voilà, donc aujourd'hui, Coupe du Monde, elle est finie, mais on s'est dit l'occasion de revenir dessus. C'est un événement tellement populaire que quand je dis Coupe du Monde, je n'ai pas besoin de préciser de football, tout le monde a compris, et je n'ai pas besoin de préciser que c'est la Coupe du Monde masculine, tout le monde a compris. Voilà, en fait, on va très peu parler de sport, parce que c'est pas trop notre truc. Et en plus de ça, aucun d'entre nous, sur les 4 personnes présentes, ne s'intéresse au foot, donc on est quand même très très mal passé pour ça.
Justement, on sera objectif.
Voilà. Et d'ailleurs, on en a discuté, on s'est rendu compte qu'on était tous de ceux qui restaient en dernier quand il fallait faire les équipes de sport et de foot à l'école. Donc ça nous fait un super point commun. Voilà. Donc, on n'a rien contre le foot et contre les gens qui aiment le foot. à mon sens, en tout cas personnel, je trouve que c'est un sport qui a l'avantage d'être un vrai sport populaire. Il y a plein de sports qu'on peut pratiquer jeune, ou alors à l'âge adulte, à condition de l'avoir beaucoup pratiqué quand on était jeune. Hein, si on veut se mettre au handball à 30 ans et qu'on n'a jamais joué avant, bah, c'est foutu. Alors que le foot, bah, c'est quand même un truc qui est bien, c'est qu'on peut jouer, on trouve des clubs. Voilà, moi j'ai connu plein de gens qui allaient le dimanche faire leur match, rentrer perdant parce qu'ils n'étaient pas bons, mais ils avaient pris du plaisir.
Et puis quand bien même, t'as un coin un peu dégagé, ouais. Une balle et c'est tout, t'as besoin de rien d'autre. Quoi. Mmh. Et c'est aussi pour ça que c'est populaire, c'est que c'est pas cher tout simplement, voilà. C'est à portée de beaucoup de monde.
Donc c'est un sport évidemment extrêmement populaire, tout le monde le sait, on compte à peu près 265 millions de licenciés dans le monde.
Ouais.
C'est quand même pas mal. En France, c'est 1,8 million de licenciés. Voilà. Et donc, on voulait en parler, évidemment, pas du côté sportif, ou très peu. Tout le monde sait que le foot, c'est une question de pognon. Tout le monde sait qu'il y a de la corruption. Mais on voulait, justement, en rentrer plus dans le détail et dire à quel point. Et voilà, s'intéresser à tout ça. Voilà, voilà.
Avant de se lancer, peut-être... Petite pause musicale.
Voilà, c'est ça.
Ah bah c'est un des morceaux que j'ai choisi. ça tombe bien, puisque c'est moi qui suis en régie. Donc en fait, pour moi effectivement, tu le disais, hein, tout comme vous autres, l'engouement collectif autour du football m'a toujours paru être un mystère très mystérieux. C'est pourquoi je me suis tout de suite reconnu dans un morceau qui m'a été conseillé par un ami et qui est de l'artiste français David TMX. C'est issu de son album de 2006, C'est du lourd. Vous allez voir que ça porte bien son nom. Et le morceau est élégamment intitulé « Allez vous faire foutre ». Petite parenthèse, je suis loin d'avoir écouté tout ce que David TMX a composé et chanté, mais j'ai trouvé que ces morceaux engagés et ou un peu délurés méritaient vraiment d'être découverts, et ça tombe bien puisque la totalité de ces albums sont sous licence Creative Commons et peuvent être écoutés gratuitement et légalement sur Jamendo, c'est ça ?
Oui, oui, on peut trouver à droite à gauche. Alors il y a du très très lourd. Hein,
oui, oui, mais c'est bien.
Ah bah, découvrons ça ensemble.
Mais qu'est-ce qui se passe dehors ? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens ? Ils gueulent tous comme des porcs, il se passe quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un est mort ? Ou est-ce qu'on va tous crever ? Où est le météore ? Y avait du foot à la télé. Je me dis, est-ce que tout cela est normal pour nous ? Cet étalage de joie pour du football ? Ou alors, sortons de mon antre, je me dis, mais alors qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on aurait enfin trouvé le vaccin du sida ? Est-ce que la paix serait faite du côté du Proche-Orient ? Est-ce qu'enfin on arrête de prostituer les enfants ? Est-ce que nos gouvernants deviendraient honnêtes ? La misère serait-elle la préoccupation première de notre pays, du peuple et de ses esthètes ? Jésus serait-il enfin de retour sur terre ? Cela est-il bien normal ? De joie pour du football. J'en ai vu pleurer, j'en ai vu vomir. J'en entends gueuler de joie et moi je peux pas dormir. Mais je me dis TMX, apprends la tolérance. Pour une fois que tout le monde s'aime dans notre jolie France. J'en ai vu prier pour la phase finale. J'en ai vu déjà s'inquiéter d'être d'origine ritale. J'ai même vu des connasses oublier qu'elles étaient connes. Mais dans quelques jours la masse n'aimera plus personne. Cela est-il bien normal? Cet étalage de joie pour du football. La nuit sera longue et chaude comme la braise. Chantons tous en cœur notre fierté, la Marseillaise. Merci à toi mon Dieu, Zidane le Tout-Puissant. T'étais encore mieux si tu t'étais appelé Durand. Mais là, vive le métissage quand nous sommes gagnants. Peu importe l'origine, votre nom scandé par la foule. Car en cas de victoire, vous êtes des dieux vivants. Et en cas de défaite, vous redeviendrez des bouillons. Car tu sais, en France, on est comme ça. On passe de la transe à la haine si tu ne marques pas. Est-ce qu'enfin on arrête de prostituer
Sébastien, c'est toi qui dois m'aider.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens. On va faire un truc un peu bizarre ce soir, c'est qu'on va commencer par la fin. Et donc c'est toi, Éléonore, qui va nous parler de la dernière Coupe du Monde, en fait.
Tout à fait. Alors comme Luc le disait, je commencerai par dire que je n'ai absolument aucune légitimité à parler de football. Je suis une consommatrice quadriennale de foot, ce qui veut dire que quand Panini sort son album de stickers Coupe du Monde, je me rappelle soudain que le foot, c'est pas si nul que ça. Je suis parisienne, donc si on me demande quelle est mon équipe, je répondrai le PSG. Et j'ai vaguement suivi quand j'étais ado les scandales de l'équipe de France de Raymond Domenech. Et j'utilise encore aujourd'hui cette perle magistrale de Ribéry, la roue tourne, va tourner. Ma carrière de football s'est limitée à taper dans un ballon dans la rue quand j'étais gamine, à choisir de faire du basket et du volley en club, et à tirer la langue aux garçons qui disaient qu'ils soutenaient l'OM à l'école. J'ai officiellement raccroché les crampons que je n'ai jamais achetés quand, en troisième, j'ai accepté de faire le goal lors du dernier cours de sport, et que malgré une promesse de ne pas tirer comme des bourrins, j'ai passé les trois jours suivants avec l'empreinte rouge vif du ballon sur mon ventre. Mais n'avoir aucune légitimité n'a jamais empêché des hommes moins brillants que moi de donner leur opinion sur tout et n'importe quoi, alors j'ai décidé que j'allais pas m'en priver non plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai vaguement suivi la Coupe du Monde de football masculine de cette année. J'avais prévu de la boycotter, comme celle du Qatar il y a 4 ans, premièrement parce qu'elle avait lieu aux États-Unis, qui est le seul pays du monde qui continue d'appeler le football « soccer », merci les Anglais, que Trump utilisait la compétition comme une opération de « sportswashing », l'utilisation d'un événement sportif pour redorer son blason, et qu'il était prévu qu'elle soit la plus polluante de l'histoire. Et d'ailleurs, ça a été le cas, notamment grâce au président de la FIFA, Gianni Infantino, qui s'est rendu d'un match à l'autre en jet privé tout au long de la compétition. Alors on est bien loin des promesses de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre prévues d'ici 2030 ou de la neutralité carbone annoncée pour 2040. Et avant même le premier coup de sifflet, les scandales s'étaient déjà multipliés. Première évidence, le prix des billets a explosé, augmentation clairement basée sur les standards américains. C'était tellement ridicule que le sélectionneur de l'Écosse, Steve Clarke, a même recommandé aux supporters de ne pas s'endetter pour aller aux États-Unis. On parle quand même de 2800 voire 4200 $ pour la finale, pour un billet pour la finale. Et c'est sans parler des frais supplémentaires dus à l'organisation en elle-même. La première triple organisation, Mexique, États-Unis, Canada, ça fait cher les déplacements d'un stade à l'autre pour aller voir son équipe jouer. Enfin ça, c'est quand on peut aller voir son équipe, parce que des supporters qui se sont vus refuser leur visa, il y en a eu beaucoup. Par exemple, le célèbre supporter congolais Michel Kouka, l'homme debout qui passe les matchs des Léopards debout, la main droite levée, en hommage à l'ancien premier ministre Lumumba, assassiné en 1961, n'a pas obtenu de visa pour les États-Unis. La première Coupe du Monde à 48 équipes, au lieu des 32 habituels, ce qui d'ailleurs a aussi été beaucoup pointé du doigt, et il a fallu l'organiser dans un pays où le président a une liste noire des pays non autorisés à venir sur le territoire. C'est comme ça qu'aucun supporter iranien n'a pu obtenir de visa. Pire encore, peut-être, c'est comme ça que la délégation iranienne n'a pas eu le droit de passer la nuit sur le territoire. Ils devaient retourner au Mexique à la fin de leur match. Un autre scandale qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas du premier arbitre somalien sélectionné par la FIFA, Omar Hartan, nommé meilleur arbitre africain de l'année 2025, qui n'a pas pu entrer dans le pays alors qu'il possédait un visa en règle. Et les joueurs ou délégations qui ont pu atterrir n'ont pas non plus toujours été bien traités ou avec respect. Les joueurs sénégalais, par exemple, se sont vus contrôler à même le tarmac. Le joueur irakien Ayman Hussein a été retenu 7 heures à l'aéroport de Chicago et la délégation d'Ouzbékistan a été fouillée en descendant du bus. La délégation d'Uruguay, elle a eu le droit à des chiens renifleurs juste avant leur match contre l'Arabie Saoudite. Des images d'une altercation physique entre le directeur de la sélection égyptienne et un policier américain à Dallas ont également circulé sur les réseaux sociaux. Et on voit le policier hurler « back off », recule à plusieurs reprises et poser la main sur son arme. Et la FIFA dans tout ça, me direz-vous ? Elle s'est contentée de déclarer qu'elle n'avait pas à intervenir dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas. Alors, Pour se recentrer un peu plus sur la FIFA, on peut s'intéresser aux nouvelles règles mises en place pour la Coupe du Monde. Je ne vais pas parler des règles de la VAR, l'assistance vidéo, parce que je ne suis pas sûre de tout très bien les comprendre, mais en tout cas, elles n'ont pas été extrêmement populaires. Il y a des limitations de temps qui ont été mises en place. 8 secondes pour que le gardien remette la balle en jeu, 10 secondes pour qu'un joueur quitte le terrain quand il se fait remplacer. Ces nouveautés, censées lutter contre les pertes de temps, tombent vraiment à pic avec la décision de rendre obligatoires les pauses fraîcheurs. Alors, les pauses fraîcheurs, c'est 2 coupures de 3 minutes par match, et c'est pas nouveau. Elles ont été créées lors des JO de Pékin en 2008 et elles existent à la FIFA depuis la Coupe du Monde du Brésil en 2014. La différence majeure, c'est que cette année, en 2026, quelle que soit la météo, les pauses fraîcheurs sont obligatoires. Alors, étonnant, hein, n'est-ce pas ? Dans un pays où un film diffusé à la télévision subira environ 5 coupures de pub par heure, donc 6 minutes de plage de pub supplémentaires par match, je vous laisse imaginer le prix des contrats des sponsors. Et d'ailleurs, la chaîne Fox, qui diffusait notamment le tout premier match de la Coupe du Monde, a fait polémique en étendant les pubs au-delà des 3 minutes réglementaires de pause fraîcheur. Et au lieu de reprendre le match à l'heure prévue, et puis tant pis pour la Fox, l'arbitre a fait patienter les joueurs 40 secondes supplémentaires avant de reprendre pour attendre la fin de la pub. Bon, je parlerai même pas du spectacle de la mi-temps. Tout ce qu'on retiendra, c'est que les Américains, ils ont un besoin constant de distraction et que pour eux, visiblement, le sport, c'est pas assez divertissant.
Et puis pour eux, le football, c'est pas ça.
Ah, clairement. C'est le soccer, après tout. Par contre, ce qui a fait le plus parler, c'est l'Argentine et les polémiques arbitrales. Alors, qu'on soit clair là-dessus, quand notre équipe perd, on blâme toujours l'arbitre. C'est la base, c'est le jeu. Par contre, j'ai rarement vu une telle colère envers l'arbitrage que lors de cette coupe. Je ne citerai que quelques exemples parce que sinon on y serait encore demain. La rencontre Haïti-Écosse, 2 pénaltys non sifflés pour Haïti qui a entraîné une pétition signée par 121 000 personnes pour demander des explications à la FIFA sur l'arbitrage. Le but égyptien annulé contre l'Argentine pour une faute commise 21 secondes avant, alors que le but argentin qui leur a permis d'obtenir la victoire a été validé en ignorant une faute commise exactement de la même manière. Cette action a d'ailleurs donné naissance au surnom VAR-Argentine. Personnellement, je pense que c'est assez magnifique. VAR-Argentine, VAR-Argentine. On peut citer aussi l'expulsion de l'attaquant suisse dans le match contre l'Argentine qui a reçu un carton rouge pour simulation. Le fait que l'Argentine n'a reçu aucune sanction quand ils ont agité sur le terrain après leur victoire face à l'Angleterre une bannière qui indiquait les îles Malouines aux Argentins, alors que les messages politiques sont censés être interdits par la FIFA. Le pied de Lionel Messi sur le mollet de l'Algérien Aïssa Mandi, plié de douleur au sol, qui n'a valu à Messi que quelques mots de l'arbitre, aucun carton jaune. Le coach égyptien, par contre, qui lui contestait une décision en faisant un X avec ses bras, qui est supposé être le symbole officiel de la FIFA pour le protocole antiracisme, a reçu un carton jaune de l'arbitre. Le tacle monstrueusement dangereux de l'Argentin Fernandez sur l'Espagnol Cubarsí lors de la finale, qui a fait quand même un tour sur lui-même à 360 degrés en l'air avant de s'écraser au sol, et pendant ce temps-là, l'Argentin Tagliafico, qui en voyant la faute énorme commise par son coéquipier, s'est laissé tomber à terre en simulant une blessure pour essayer de distraire l'arbitre. Je n'avais jamais vu de carton rouge être célébré comme un but, mais je dois avouer que voir Fernandez se faire expulser du terrain, c'était assez beau. Et c'est aussi ça qui est beau dans le football, c'est unir des peuples dans une haine commune contre l'Argentine, qui a la victoire orgueilleuse et la défaite mauvaise. À tel point que je ne peux pas m'empêcher de citer l'altercation sur le terrain après la défaite de l'Argentine en finale, et le joueur argentin Paredes, qui a violemment attrapé à la gorge un adversaire espagnol, qui lui a valu un carton rouge après le dernier coup de sifflet de la Coupe du Monde. Personnellement, j'ai craqué. J'ai regardé le match France-Paraguay et le score que j'en ai retenu, c'est 29 tacles, 13 fautes et 0 carton jaune contre 3 cartons jaunes pour la France. Y compris un carton contre Michael Olysée parce qu'un joueur du Paraguay qu'il ne touchait pas s'est frappé lui-même au visage en se tenant devant lui. C'était assez impressionnant. La France, d'ailleurs, a demandé l'annulation de ce carton à la FIFA, mais clairement, on n'a pas la même influence que Donald Trump. Parce que quand le président américain passe un coup de fil au président de la FIFA en lui disant « je comprends pas, c'est quoi ce carton rouge ?», ben, c'est la levée du carton rouge pour le joueur américain Balogun, qui a donc pu participer au match suivant contre la Belgique et se prendre une très belle raclée pour le plus grand plaisir des internautes. La polémique France-Paraguay, c'est aussi et surtout la sénatrice du Paraguay, Céleste Amarilla, qui a traité Kylian Mbappé de singe sur les réseaux sociaux avant de l'accuser de sexisme quand il a eu l'audace de lui répondre. Les commentaires racistes, hein, c'est d'ailleurs pas ce qui a manqué durant cette Coupe du Monde. Clairement, sous toutes les photos de l'équipe de France, on parlait de « équipe africaine », on se serait cru sur le groupe Facebook de l'amicale du RN. Le streamer noir américain iShowSpeed, qui a assisté à de nombreux matchs, s'est d'ailleurs fait insulter à la fin d'un match en plein live par une supporter de l'Argentine qui lui a dit de retourner d'où il venait. Bref, tacle, bousculade, coup de poing, poussée, coup en pleine figure, claque, des fautes non sifflées, il y en a eu plein. Personnellement, le scandale que je retiendrai, c'est l'augmentation de 120,8% des appels au numéro pour les victimes de violences conjugales en Espagne après la victoire contre l'Argentine. C'est aussi des joueurs qui participent à la Coupe du Monde alors qu'ils sont accusés d'agression sexuelle ou de violences conjugales. Pour moi, et j'en suis coupable, la Coupe du Monde, c'est la victoire du sportswashing sur la morale qui nous fait fermer les yeux sur la corruption de la FIFA. Et je finirai en citant Guido Tognoni, l'ancien conseiller de Sepp Blatter, le précédent président de la FIFA. Le fan lambda veut du foot et que son équipe joue la Coupe du Monde. Il veut voir ses héros jouer, les Ronaldo et les Messi. Il se fiche des querelles de la FIFA. Il sait qu'il y a de la corruption et il en a assez. La question est autorisée. Pourquoi les fans lambda devraient se soucier de la corruption dans le sport ? On devrait s'en soucier parce qu'on continue à faire croire au monde que le sport est quelque chose de beau, de juste, de divertissant, de propre. C'est faux, mais l'illusion perdure. Si on ne se bat pas contre la corruption dans le sport, autant arrêter de lutter contre la corruption en général.
Juste une petite chose, je pense qu'un peu le fil rouge de l'émission, c'est de dire que le foot spectacle, c'est un peu le miroir de son époque. Est-ce qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui, on est dans l'époque où les règles s'appliquent différemment en fonction de si tu es puissant ou si tu l'es pas ?
C'est un peu ça. Et on retrouve quelque chose de très scripté et scénarisé avec cette impression beaucoup chez les internautes que l'Argentine a été amenée en finale et que du coup...
Oui, c'est le grand copain de Trump, donc qu'est-ce que tu veux ?
Donc on se dit, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est scripté ? Est-ce que, à quel point le tirage au sort est... est truqué, pas truqué ? À quel point c'est vraiment du hasard ? Ça pose beaucoup de questions. Et Yann, je crois que le prochain morceau, c'est toi qui l'as choisi.
Oui, absolument. C'est Kicker Conspiracy de The Fall, qui est en fait un groupe que je connais assez mal, pour être tout à fait honnête. Je l'écoutais occasionnellement quand j'étais ado, et ça en faisait partie. Et en fait, j'ai découvert presque par hasard pour l'émission qu'il avait duré assez longtemps, jusqu'à la mort du fondateur du groupe. Et bon, ça parle du foot, du dopage, du hooliganisme, des débuts de la gentrification du foot aussi, qui est un marqueur de classe sociale assez fort au départ. Et c'est un morceau de 1982.
Qui s'appelle
Kicker Conspiracy.
Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, J-Hells, Panic Break, and Slickers, King of Team, Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, in the marble halls of the charm school. Half-Blair is punished. Under marble Miller Chip, the FA broods. And her flair can be punished. And then guest as a Euro state magnates. Comrades, you elect. Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, and the Boos Club, George Best does rule. Her flair is punished. His downfall was a long goal. But that's none of your business. Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy. Football fan at the bus stop, stretched on the balls of his feet.
units. Plastic, slime, partitions. Cocktail, zigzag, Tudor bar. Pat McCat, Pat McCat, the very famous sports reporter, is talking there. Remember, you are abroad. Remember, the police are off. Remember, the unemployed. Remember, my expense account. Hot dogs and seat for Mr. Hogg. Hot dogs and seat for Mr. Hogg. And his grotty spawn. And living brochures for ground units.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens. Et c'est à Luc, de quoi tu viens nous parler cette fois?
De football, incroyable.
Ah, quelle surprise.
on fait un ordre un peu antéchronologique. Là, Léo nous a parlé de la dernière. Et moi, j'ai été beaucoup marqué par la précédente.
Oui, moi, j'ai remonté en 1904, hein, t'inquiète
pas. Ouais, voilà. Donc, toi, tu vas faire. Nous, on fait une Coupe du Monde à la fois et toi, tu fais tout le reste. mais je voulais commencer par un petit témoignage personnel. Parce qu'il y a à peu près 25 ans, je faisais un boulot de relation client sur une centrale d'appel pour un truc qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une chaîne à abonnement par satellite, et pour qui le football était comment dire, un de leurs arguments de vente principal, quoi. Et bon, je vous passe les détails, mais en gros, ils faisaient une opération de maintenance et ça générait beaucoup de problèmes et donc beaucoup d'appels. Et dans cette expérience professionnelle un peu difficile, ça m'a donné la possibilité de rentrer chez les gens en quelque sorte, puisque la télé marchait plus. Et sur la partie football, c'était vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que personne n'est content de pas pouvoir voir ses programmes, etc. Ils payent un abonnement, ça marche pas. Mais les fans de foot étaient fous et fous furieux. Et bien souvent, j'avais en fait les épouses, en général des hommes, mais en général, j'avais souvent les épouses parce que leur mari était tellement en colère qu'il était incapable de passer un appel et de garder son calme et d'écouter ce qu'on pouvait lui dire dans les manifs parce qu'il aurait juste pété les plombs. et plus d'une fois, j'ai une femme comme ça, quand j'ai dit que ça ne marcherait pas tout de suite, alors qu'il y avait un match le jour même, elle m'a dit « mais mon mari va vraiment être très en colère ». Avec un ton qui laissait entendre que je devais me sentir concerné. Bon, moi, j'étais de l'autre côté du téléphone, mais ça voulait dire qu'elle allait passer une très, très mauvaise soirée. Et voilà. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué sur ces trucs-là. Et j'ai réalisé à quel point... Alors, comme tout le monde, hein, on connaît tous des fans de foot. J'en ai connu quelques-uns. Après, on peut se dire, bon, c'est une personne parmi d'autres. Mais c'est là que je me suis aperçu, en tout cas, que des comme ça, il y en a beaucoup, en réalité. Et on en voit au travail, dans l'environnement professionnel, par exemple. On a des gens, j'en ai pas trop, mais à certaines périodes de ma vie professionnelle, il y a des gens pour qui il n'y avait que ce sujet de conversation. Ils n'avaient rien d'autre à dire en particulier. Voilà. Ce que je trouve assez, assez fou, parce que tout à l'heure je disais que le foot avait quand même cet avantage d'être un vrai sport populaire auquel on pouvait jouer, mais c'est que la plupart des gens n'y jouent pas, et en fait le regardent. Et ça les met dans des états incroyables, pour regarder des gens jouer au ballon. Et ça les fait vibrer de façon vraiment très forte. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que je ne vois pas dans notre société actuelle d'événements qui soient autant fédérateurs et qui soulèvent autant d'enthousiasme, autant d'émotions. Enfin, pas que de l'enthousiasme d'ailleurs, ça soulève des émotions très variables. Mais je vois rien qui soit aussi intense socialement que le football, de façon aussi large.
J'argumenterais peut-être les concerts de K-pop ou de certains artistes, oui, auprès notamment des jeunes femmes, qui sont d'ailleurs souvent taxées d'hystérie, alors que au final les hommes réagissent à peu près de la même manière pour le football.
Ça rappelle un peu ce qu'on disait sur les Beatles à leur grande époque, hein, tu sais, la fameuse Beatlemania et les gens qui criaient, etc.
C'est pas du tout le même ton, tu vois, quand ils crient. Oui. c'est une différence absolument énorme. à la différence, je dirais que le football, quand ces Coupes du Monde, on tartine partout, tu ne peux pas y échapper, alors que un concert de BTS, il n'y a que les fans qui sont au courant.
Et puis la grosse différence aussi, c'est que les fans de K-pop, ils peuvent peut-être se mettre dans des états pas possibles, mais en général, c'est pour les gens qui s'adorent et non pas contre les concurrents de ces gens-là. Et ça change beaucoup de choses, je pense.
Je ne suis pas assez expert. Il n'y a pas de petits règlements de compte et des coups de foudre, non ?
Si, il y a quand même toute une politique qui est assez particulière entre les fans et les campagnes sur Internet.
Est-ce qu'ils vont sortir dans la rue pour casser la gueule aux fans d'en face ?
Non.
Je pense qu'on fera une émission spécialement sur la K-pop la prochaine fois.
Non, parce que ça m'intrigue, parce qu'effectivement, je trouve que... je ne connais pas bien le sujet.
On parlait de l'équipe de foot de Corée, peut-être. Donc le foot est quelque chose qui remplit la vie d'un monde de personnes importantes, et avec ce truc, comme dans la première chanson de David TMX, on se dit il se passe des trucs graves, mais bon, ouais, c'est la Coupe du Monde, donc ça éclipse tout le reste. Donc pour moi, il y a quand même ce truc où le foot, même si on n'aime pas, c'est quand même un phénomène social qui est énorme.
En fait, les deux plus grosses instances, c'est la FIFA et le CIO, en fait,
oui,
en gros, pour le sport.
Ça fait. Et donc, malgré ça, et malgré l'importance du football, et malgré tout son poids, on sait qu'il est corrompu. Il y a de multiples affaires, et Yann, je pense que tu vas nous les détailler ou nous en donner des tas.
Oh oui, moi j'en ai
trop. Voilà, et c'est devenu de plus en plus un objet de business, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a quelques décennies. C'est en tout cas un phénomène qui s'accélère. Donc, sachant que il y a eu notamment depuis quelques décennies l'arrivée de purs investisseurs qui vont racheter des clubs de foot juste dans l'idée que la valeur va monter ou descendre et essayer de spéculer dessus. On est quand même très très loin du sport et ce genre de choses.
Il y a eu un gros basculement dans les années, les années 70 à 90.
Alors de ce que j'ai lu aussi dans les années 2000-2010, c'est le moment où vraiment c'est devenu des opérations financières pures et dures. Autre truc où j'ai trouvé des références, ça existait peut-être avant, mais dans les années 2010, il y a eu pas mal d'affaires qui sont remontées sur des sortes de matchs truqués. Parce qu'à la limite, on peut dire, ok, c'est du business, mais bon, il faut bien gagner sa vie. Et puis, puisque les gens aiment autant faire de l'argent, on pourrait dire, ok, il y a de la politique autour, mais il y en a toujours quelque part. Mais le fait que les matchs eux-mêmes soient truqués...
Oui, il y a là aussi toute la corruption pour l'attribution du championnat à un pays, en fait. C'est un truc énorme, ça.
Et ça, tu pourrais dire, c'est de la politique, derrière, il y a du business, etc. Mais le fait de truquer un match, pour moi, c'est, par rapport à un idéal sportif, c'est quand même un cran au-dessus. Et à l'époque, quand j'avais trouvé ces articles, dans les années 2010, bien qu'étant plutôt pessimiste de nature, j'avais été assez surpris parce que je ne pensais pas que ça puisse...
Je reparlerai d'un match truqué tout à l'heure en Argentine en 78 qui était assez intéressant.
Donc moi, mon truc, la Coupe du Monde de la dernière, celle qui s'est faite au Qatar. Donc The Guardian, le journal anglais, avait fait un gros boulot pour suivre ce qui se passait là-bas. Et notamment, le Qatar a été attaqué sur les restrictions qu'ils ont mises sur notamment les personnes homosexuelles, LGBT, etc. Le truc qui, moi, m'a le plus marqué, c'était par rapport à la main-d'œuvre qui a construit les infrastructures. Donc, ce sont des gens qui venaient essentiellement d'Asie, du Vietnam, de ce genre de pays-là, à qui on a souvent menti en leur promettant un boulot qui n'était pas celui qu'ils avaient à l'arrivée, menti sur les salaires, où ils ont été payés beaucoup moins que ce qu'on leur avait annoncé, qui souvent étaient endettés, parce qu'il a fallu...
Ouais, c'était le système de la kafala qui est pratiqué, en fait, beaucoup.
C'est ça. Il a fallu qu'ils payent pour avoir un boulot auprès d'un intermédiaire. Et ils se sont retrouvés dans des logements insalubres, complètement empilés les uns sur les autres, avec des vigiles, des barreaux aux fenêtres, des vigiles qui ont pu les cogner si jamais ils se rebellaient. Ils n'étaient pas toujours payés, on leur a pris leur passeport pour les empêcher de partir, ou on les a virés dans un pays où, sans l'autorisation de travailler, on n'est rien du tout. Et à peu près 6500 d'entre eux sont morts officiellement d'un arrêt cardiaque, en réalité de chaud, puisqu'ils travaillaient en plein cagnard. Donc 6500 morts pour une Coupe du Monde. Je trouvais ça super choquant.
C'est un peu plus que mes chiffres de la canicule.
Hein, ouais, je peux dire. C'est ça. Mais c'est sur plusieurs années. Face à ça, en Europe, essentiellement en Europe, il y a eu pas mal de velléités de boycott à l'époque. Le débat est sorti assez tard, hein, dans les derniers mois avant la Coupe du Monde, alors qu'on était au courant bien avant. Et il y a quand même eu des actions. Il y a plein de grandes villes en France, dont Paris, mais plein de grandes villes qui n'ont pas installé d'écran géant pour que les gens puissent voir ça ensemble, etc. Et quelques mois avant la Coupe du Monde, 60% des gens, dans des sondages, disaient qu'ils allaient boycotter la Coupe du Monde. Et résultat du compte, on a eu des audiences excellentes, meilleures que celles de Coupe du Monde d'avant, et donc toutes les velléités à boycotter se sont complètement envolées, quoi. Ce que je trouve assez terrible dans ce truc-là, c'est qu'on comprend que le foot, c'est tellement important que finalement... ces 6500 morts et toute cette maltraitance ne compte pas. En tout cas, on l'oublie. Et ce que je trouve d'un point de vue social assez terrible, c'est que finalement, corrompre le foot en disant, le Qatar obtient la Coupe du Monde par un tour de passe-passe de corruption et applique sa politique, parce que, en fait, le drame, c'est que tous les travaux là-bas, c'est comme ça. Enfin, c'est pas spécifique à la Coupe du Monde.
Oui, tout à fait.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça permet de finalement corrompre les valeurs des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on s'est payé une Coupe du Monde à 6500 morts, pourquoi pas, une carrière de Patrick Bruel à 30 viols. Enfin, c'est pas beaucoup plus. Et je trouve que c'est en fait cette corruption, c'est un mécanisme de corruption qui, moi, me marque beaucoup en faisant ce genre de compromis. On fait plus qu'un compromis des gens qui sont dans le business et qui s'en mettent plein les poches. Finalement, on emmène toute la population dans une acceptation d'un relativisme ou d'un truc.
Une compromission morale. Ouais.
Voilà. Ils sont déjà morts, donc si je la regarde ou que je la regarde pas, c'est pareil. Et je pense que cette question des droits de l'homme est importante, hein, parce qu'une des critiques qui avait été apportée à ces mouvements de boycott, c'est de dire non, mais il n'y a qu'en Europe qu'on veut boycotter, le reste du monde s'en fout. Mais le reste du monde, la plupart du temps, ils vivent dans des dictatures et ces valeurs des droits de l'homme, c'est pas les leurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui s'entretient. Et je pense qu'on a fait un grand pas en arrière avec cette Coupe du Monde-là. Voilà. Alors, on va écouter un morceau. Donc, Léo, c'est toi qui l'as proposé.
Super. Ouais. La chanson que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est « You'll Never Walk Alone », dans ce qui est probablement sa version la plus connue. La chanson est écrite à l'origine pour la comédie musicale Carousel et il en existe des reprises magnifiques par Nina Simone, Ray Charles ou encore Elvis Presley. Mais la plus connue, c'est peut-être celle du groupe britannique Jerry and the Pacemakers, un groupe originaire de Liverpool qui a dominé les charts pendant des semaines quand la reprise est sortie en 63. Cette version est également connue dans le monde du football pour être l'hymne du club de Liverpool. Elle résonne depuis 1963 dans le stade d'Anfield, qui était à l'époque l'un des premiers stades à avoir un DJ qui passait des morceaux du coup du top 10. Elle est chantée avant chaque match, mais aussi pour honorer les tragédies, comme la bousculade mortelle d'Hillsborough de 89 ou l'accident de voiture mortel du footballeur Diogo Jota et de son frère André Silva l'année dernière. Et parce qu'un stade qui chante à l'unisson, c'est quand même très beau, c'est une version à Anfield que je vous propose de découvrir maintenant. You'll Never Walk Alone, de Jerry and the Pacemakers.
Et juste après, un extrait de film qui est le film...
Pas de spoiler.
Pas de spoiler, dont Sébastien va nous parler.
Mais tendez l'oreille.
Tendez l'oreille. When you walk through a storm, hold
don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a bird. Walk on through the wind.
Grows old, and some great Liverpudlian crooners.
Jonathan E., un grand nom. À Houston, les joueurs vont et viennent, mais le champion reste immuable. Vous savez à quel point le jeu nous sert. Il a un but social bien défini. Les nations ont fait faillite, toutes. Adieu pauvreté, adieu souffrance. L'homme a mené à bien la réalisation de son rêve. L'avènement de la société corporatiste était inéluctable. Aujourd'hui, la vie est bonne et les loisirs nombreux.
Obéissez à leurs ordres, Jonathan. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens. Alors je suis désolée, j'avais oublié de couper mon micro, donc vous aurez pu profiter pendant le morceau de mes petits commentaires. Et ça va être maintenant au tour de Sébastien de nous présenter sa chronique.
Alors oui, c'est super bien fait notre émission, on dira jamais assez, hein, parce qu'on a commencé donc en 2026, puis on est passé à 2022, et puis là ben, je vais vous ramener en 2018. Mais pas la Coupe du Monde qu'organisait cette année-là la Russie de Vladimir Poutine, mais un 2018 alternatif, le futur d'un film passé. Ce film, dont vous avez entendu la bande-annonce française, c'est Rollerball, sorti en 1975, et qui est peut-être l'objet le plus étrange, à ma connaissance en tout cas, que le cinéma ait jamais consacré au sport. Derrière la caméra, un réalisateur canadien, Norman Jewison, qui est peu considéré par les cinéphiles parce que, en fait, sa carrière est très éclectique et donc il n'est pas vraiment vu comme un auteur. Il a fait un polar antiraciste dans La chair de la nuit, qui est pas mal du tout, un film de casse avec l'affaire Thomas Crown et une comédie musicale avec Jésus-Christ Superstar, j'ai jamais vu. Je pense que je verrai jamais. Avec Rollerball, il s'engouffre dans une grande vague pessimiste du cinéma américain des années 70, après La planète des singes, Soleil vert, dont on a parlé il y a deux semaines. Chronique d'ailleurs est réécoutée sur le site de Radio Libertaire. Et donc là, il livre sa propre dystopie, Jewison, en adaptant une nouvelle de William Harrison, qui signe d'ailleurs lui-même le scénario. Et donc,
2018. Après des guerres de corporations, les États ont disparu. Il y a 6 firmes mondiales qui se partagent le monde: énergie, luxe, alimentation, logement, communication, transport. Et en fait, ça constitue une espèce de conseil d'administration mondial qui dirige la planète en visioconférence. On peut dire que là, pour le coup, ils avaient un peu d'avance aussi dans le film. Il n'y a plus de guerre, plus de pauvreté et surtout plus de politique. Donc, on doit vraiment s'emmerder dans les dîners de famille. D'où le fait qu'il existe un spectacle pour tenir les foules en haleine, le rollerball, un sport inventé de toutes pièces pour le film. En fait, il faut imaginer un croisement entre du handball, du football américain, du hockey, du catch et même... du flipper. Donc, sur une piste circulaire qui ressemble à un vélodrome, il y a 2 équipes en patin.
Ouais. Les rollers, c'était super à la mode en 75, je pense. Non, c'était le truc...
Eux, ils n'ont pas imaginé un futur où tu serais sur coussin d'air.
Non, mais ils exploitaient la mode du moment qui était...
Ouais, c'est roller, possible. Ouais, je pense. Mais il y a clairement de ça. Mais de toute façon, c'est un mélange d'influences. Le film, forcément, il parle de son époque. Et donc, voilà, il y a 2 équipes en patin qui sont flanquées de motos, ça c'est un peu original, qui cherchent à loger une baballe en acier dans le but adverse. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu le thème du soir. Tous les coups sont permis ou presque, ça rejoint aussi le thème du soir. On s'empoigne, on se frappe, on s'éjecte hors de la piste et sous l'œil d'arbitres, soit totalement dépassés, soit un peu complaisants, et une foule qui hue et exulte. Donc en gros, c'est du pain et des jeux, sauf que depuis Rome, on a juste remplacé les empereurs par des cadres dirigeants d'entreprises. Et donc, le film va s'intéresser au parcours d'une star qui s'appelle Jonathan Hee. Alors déjà, il n'a pas de nom, il n'a qu'une initiale. Hein. Le système ne lui concède rien de plus, alors qu'il règne depuis 10 ans sur un jeu conçu pour des carrières, forcément, et des vies assez courtes. Et un jour, du coup, la corporation Energy, propriétaire de son équipe de Houston, considère que il a fait son temps, il en a marre maintenant, donc il faut qu'il prenne sa retraite. Il leur donne de le faire et il refuse. Et du coup, tout le système va se mettre à trembler parce que globalement, les dirigeants vont se mettre à changer les règles match après match pour les rendre de plus en plus mortelles, pour finir par éliminer un homme qui ne veut pas partir. Alors ce Jonathan Hee, il est brillamment interprété par James Caan, qui avait été révélé peu de temps avant par Le Parrain. Et c'est un personnage qui est vraiment intéressant pour le coup, et assez unique je trouve. Il est malin, mais il est un peu fruste, il est laconique. Tu sens qu'il n'est pas trop porté sur l'introspection, mais c'est parce qu'en fait il n'a pas les références, ni même les mots pour articuler son malaise. En fait, c'est le produit de son époque. En fait, c'est une époque qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé, et donc se sentir mal à l'aise et remettre en question le système, c'est même quelque chose qui n'est pas évident pour les gens. On le sent quand même sous un flegme apparent, animé de pulsions violentes et une rancune tenace, parce qu'en gros sa femme lui a été retirée et réattribuée à un cadre dirigeant, comme on reprendrait une voiture de fonction. Et en fait, lui, il veut juste savoir pourquoi on lui a retiré sa meuf, pourquoi on lui demande en gros de prendre sa retraite alors que lui, il veut pas. Et en fait, il est filmé, alors qu'il est vraiment, c'est un privilégié parmi les privilégiés, hein, mais il est vraiment filmé un peu comme un prolétaire face à des dirigeants qui sont tour à tour mielleux et menaçants. Et en gros, il est défini que par une phrase qu'il répète à plusieurs reprises, c'est « j'adore ce jeu ». Et il aime ce qu'il fait, il est bon dans ce qu'il fait, et c'est peu. Et en même temps, c'est à peu près le seul personnage caractérisé du film. Tous les autres sont vraiment de pure fonction. Et c'est justement le sujet, en fait. C'est vraiment un univers où les gens sont réduits à leur fonction dans l'échelle sociale. Alors, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve, je ne sais pas si vous l'avez... Je crois que tu l'as vu, Yann.
Oui, oui.
C'est pas un film qui, formellement, est flamboyant. Il n'est pas parfait.
Ouais, c'est un coup de vieux, mais ça arrive, quoi.
Ça arrive. Puis c'est vrai que... il y a un peu mal rythmé aussi. Mais c'est parce que Jewison, c'est pas un grand formaliste. Mais il y a quand même quelques choix audacieux. Déjà, la musique classique qui est omniprésente et qui donne en fait une espèce d'accent solennel, quasiment liturgique, qui donne un aspect religieux en fait à ce sport. Puis les décors, ça a été tourné à Munich juste après les JO de 72, avec une architecture super froide en béton, des intérieurs lisses et sans personnalité. Et puis les décors, les accessoires, c'est un futur super low-tech. Il n'y a pas de gadgets, il y a très peu de costumes extravagants. Et en fait, tout est fait pour créer une impression de rétro-futurisme, en fait. Et ça, je trouve que ça a plutôt bien vieilli.
Ça, oui.
Et puis, il y a les morceaux de bravoure, en fait. C'est 3 matchs, d'une brutalité croissante au fur et à mesure que les règles changent. Et en gros, c'est un montage ultra haché, des caméras super mobiles qui épousent vraiment l'action. C'est des choix formels qui sont super rares à l'époque et qui donnent vraiment un réalisme très haletant et très moderne. Et puis cette violence, du coup, hein, qui était limite cinéma d'exploitation à l'époque, qui a beaucoup choqué en 75. Là, elle a pris aussi un petit coup de vieux, mais le film reste quand même également assez dur à voir. C'est pas un film super joyeux. Et puis il y a d'autres scènes, du coup, où Wilson filme le monde d'en haut, en fait, le monde des puissants. Il y a une réception, notamment, c'est une scène qui est assez bizarre, assez étrange, assez malaisante. Une réception qui est donnée en l'honneur de Jonathan Hee. Et en gros, il y a des sourires vides, des banalités qui sont échangées. Et ça finit une espèce de quasi-orgie bizarre, sans vitalité, sinistre. Et à l'aube, en fait, on voit les riches se rendre devant dans une forêt et commencer à buter des arbres juste pour s'amuser, en fait, ce qui, forcément, à l'époque, évoquait un peu le napalm. Aujourd'hui, ça a une autre résonance quand on regarde ça. Alors moi, je trouve que ce film est intéressant parce que c'est un peu l'inverse exact de Soleil Vert. Encore une fois, réécouter notre émission. Le soleil vert, c'était l'effondrement. Ici, en fait, c'est le capitalisme qui est dans une réussite terminale, en fait. Il est stable, durable. Il a acheté la paix sociale contre du confort. Et il achète aussi la paix sociale par le divertissement. En gros, le métaphore peut être vu comme une métaphore peut être vue comme un film, et l'inverse, des classes moyennes, en fait, qu'on achète à coup de privilèges pour qu'elles se rebellent pas et qu'elles se posent pas trop de questions. Et d'ailleurs, le peuple est totalement absent du film. C'est une masse indifférenciée dont la caméra n'extrait que quelques visages exaltés. Et qui en fait sont montrés en train de sourire bêtement pendant que des gens meurent sur scène. Et en fait, moi j'ai beaucoup pensé à l'aspect du spectacle de Guy Debord, en fait, qui date quelques années auparavant. Rollerball est presque un manifeste situationniste, si on veut, mais sous forme de gros film d'exploitation un peu brutal. Et puis c'est aussi un film d'anticipation aussi, qui serait presque en avance, parce que donc le film date de 10 ans avant l'invention du cyberpunk, mais il décrit quelque part un monde post-cyberpunk, un monde en fait où les corporations ont déjà pris le pouvoir et maintenant elles se partagent tranquillement les miettes. Et il y a une machine dans le film, c'est Zéro, un ordinateur central qui a numérisé tout le savoir du monde, au point qu'on ne sait même plus où sont passés les livres, et qui, au lieu de prodiguer ses savoirs aux hommes, se contente de recracher la propagande corporatiste. Et bien sûr, toute ressemblance avec l'IA actuelle serait totalement fortuite. Pour le coup, elle est vraiment fortuite. Donc le film a des angles morts, hein, le sexisme n'est pas traité, les femmes sont montrées vraiment comme des objets, c'est pas trop questionné. Et puis il y a aussi effectivement l'absence de politique, en fait. Hein, à la fin, donc, bah, globalement, on se compte le nom de Jonathan Hee, mais il n'y a pas de victoire des masses sur le système, en fait. C'est vraiment une espèce de victoire qui laisse un goût amer, comme il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Tout est en fait totalement verrouillé. Pour moi, Rollerball reste une anomalie, parce que c'est une dystopie qui n'a jamais été remise en scène telle quelle. En fait, c'est une utopie de fin de l'histoire. Un petit peu, le capitalisme a triomphé et point barre. On sait aujourd'hui que c'est une vision qui est un peu dépassée. Et bon, il y a eu quelques films qui l'ont parodié ensuite. Une suite également, enfin un remake en 2002, signé John McTiernan, qui paraît-il est un navet et qui a été en grande partie charcuté par les producteurs. Donc voilà quoi. Mais en même temps, je trouve que voilà, le film mérite d'être vu aussi pour ça, comme une anomalie, et aussi parce que voilà, en fait, c'est là que ça rejoint un peu notre sujet du soir. C'est un film qui montre aussi la manière dont le sport spectacle est toujours récupéré par l'idéologie du moment. Ici, c'est une idéologie qui n'est pas advenue. Peut-être qu'elle adviendra un jour, sait-on jamais, j'espère pas. Mais toujours pour se mettre au service du puissant et du statu quo. Et après, cette longue discussion sur un film que j'espère vous avoir donné un peu envie de voir, je vous propose peut-être de passer à une pause musicale, n'est-ce pas, cher Luc ?
Oui, c'est un morceau qui ne parle pas de football, il ne parle pas, il n'y a pas de parole. Mais juste le titre m'a fait penser au foot, et c'est un morceau que j'aime beaucoup, il s'appelle Le Long du Pied, d'un groupe qui s'appelle Parpaing, et qui date de 2015.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, l'émission est en panne de sens, et Yann, maintenant tu vas nous parler, enfin on parle de football, de coupe du monde, et tu vas nous parler
des controverses encore une fois, qu'on l'a déjà tous fait aussi, de nature assez différente en fonction des époques, instrumentalisation politique, proximité avec des régimes autoritaires, corruption, clientélisme, droits humains, enfin tous ces trucs-là,
ça donne envie, hein.
Voilà, voilà. Et en fait, je vais faire une. Je vais les passer en revue avant ce qui a été examiné, justement, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. En fait, création de la FIFA, c'est en 1904. Et pendant les 30 premières années, c'est une petite fédération, en fait. Hein, c'est une petite fédération européenne qui cherche à organiser des compétitions internationales avec. Des débats sur la professionnalisation du football, donc c'était même pas le cas, donc vous imaginez bien que des affaires majeures de corruption, c'était pas encore trop ça, ils géreraient des conflits entre petites fédérations européennes et tout ça. Et le premier grand scandale arrive 30 ans après, la création de la FIFA. Premier grand scandale, c'est un scandale politique, la Coupe du Monde de 1934, parce que un certain Moustachu, lui, il a eu son heure de gloire avec les JO de 1936, mais un certain Mussolini, lui, il a eu la Coupe du Monde de foot de 1934. C'est assez prévisible, hein, je veux dire, un sport qui glorifie des valeurs de dépassement de soi individuel et collectif, vu que c'est un sport d'équipe, avec une identité du groupe assez forte, etc. Bon, c'est logique que ça plaise, quoi. Et Mussolini, il obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 34, et il en profite pour faire de la compétition vraiment un outil de propagande, comme les Jeux Olympiques de Berlin 2 ans plus tard. Et en fait, la FIFA accepte que la compétition soit utilisée comme vitrine du régime fasciste, parce que le régime fasciste va servir de vitrine à la FIFA naissante, qui est pas encore très visible. Donc c'est tout bénef pour tout le monde est content, enfin tout le monde. Peut-être pas les gens qui sont persécutés par Mussolini, mais ça, c'est un autre problème. Et en gros, il y a plusieurs arbitres qui prennent des décisions qui sont contestées en faveur de l'Italie, avec des soupçons de pression pas possibles, notamment sur les arbitres italiens, justement, qui eux-mêmes habitaient sur place et avaient peut-être un peu peur des représailles s'ils arbitraient pas comme il fallait. Et en gros, la FIFA dit oui, mais enfin, c'est un événement sportif, la politique ne doit pas empêcher le déroulement du tournoi, on est neutre. Et ça, c'est le truc qu'ils vont toujours dire, toujours. Encore maintenant, c'est vraiment le truc. Voilà. Alors, après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, pareil, hein, ils ont été très, très arrangeants. Ils ont dit, oh, la sélection autrichienne disparaît, pas de problème. Ça n'existe plus, c'est plus un pays. Mmh. Voilà. Donc voilà, la FIFA, elle a accepté cette situation sans protestation ni sanction, il n'y a pas de souci. Donc, petite pause pendant la guerre quand même, parce que ça a commencé à devenir gênant, des événements internationaux, ils étaient un peu plus brutaux à cette époque quand même. Et ensuite, après-guerre, ça reprend avec la guerre froide, toujours en appliquant officiellement en fait sa doctrine de neutralité politique. Et ce d'autant plus qu'on est vraiment dans une période de croissance de la FIFA, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'en gros, elle accepte des fédérations des pays occidentaux, des États communistes, des dictatures militaires, des pays nouvellement décolonisés. Du coup, forcément, cette soi-disant neutralité, elle est nécessaire pour ratisser large, mais elle lui voit des critiques récurrentes parce qu'elle sanctionne jamais un régime pour des raisons politiques. Jamais. Bon, en même temps, avec Mussolini, ils avaient placé la barre assez haut, donc voilà. Et en fait, il y a des tensions à cette époque qui concernent surtout la reconnaissance de certaines fédérations, genre Chine populaire ou Taïwan, Allemagne de l'Est, ce genre de choses, et des soutiens à des régimes assez bof, là, ça continue. En 62, par exemple, en conséquence de l'apartheid, le CIO, là, on est sur les Jeux Olympiques, exclut l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques jusqu'en 92. Jusque-là, bon, ça va. La FIFA fait pareil en 63. Sauf que le président de la FIFA, qui s'appelait Stanley Rous à l'époque, il allait négocier sa réintégration dès 66, en disant oui, mais alors on propose d'inscrire une équipe entièrement blanche à la Coupe de 66, puis entièrement noire à la suivante, comme ça, ça sera pas. Non, mais vraiment, vraiment, ils ont fait ça. Donc voilà. C'est quand même pour dire un peu le
respect de la parité.
Ouais, ouais, voilà. Il y a eu la Coupe du Monde en Argentine en 78. Bon, Argentine 78, c'est junte militaire. Et il y avait ce qu'on appelait l'opération Condor à l'époque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en gros, c'était une alliance des dictatures militaires d'Amérique latine. Et en gros, il y a eu une grosse suspicion de matchs truqués en lien avec des exécutions d'opposants péruviens qui étaient en Argentine en échange d'une victoire de l'Argentine contre le Pérou. Voilà. Donc, alors ça, certes, la FIFA n'est pas responsable. Elle a été utilisée pour ça, contrairement à...
Déjà l'Argentine.
Contrairement, effectivement, à l'affaire de l'Afrique du Sud où elle était directement impliquée. Donc voilà, on arrive tranquillou aux années 80-90 avec, là, le premier gros scandale de corruption qui touche la FIFA sous la direction de Sepp Blatter, le président qui a précédé l'actuel, qui est aussi sur la sellette. Et Blatter n'était pas mieux que le présent, hein. C'était un type, bon, alors il a dirigé la FIFA de 98 à 2015, mais il a déjà été secrétaire général de la FIFA depuis 81, en fait. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a une chronologie intéressante là. Et donc, on va parler d'une entreprise suisse qui s'appelle ISL, International Sports and Leisure, qui est en faillite en 2001. Et elle avait obtenu l'exclusivité de la vente sur les droits marketing de plusieurs Coupes du Monde. Jusque-là, bon, ok. Et donc, les investigations sur sa faillite, elles amènent la justice à faire des perquisitions dans les bureaux de la FIFA à Zurich en 2005, pour des soupçons de détournement de fonds, de corruption, etc. etc. Et il y a une enquête qui accuse directement le président et le gendre du vice-président de la FIFA, qui aurait d'avoir touché 40 millions d'euros de pots de vin dans les années 90. C'est pas mal. La BBC diffuse dans la foulée, en juin 2006, un reportage où tu as d'anciens employés d'ISL qui confirment les versements entre 82 et 2001. Donc, quand je vous avais dit qu'effectivement, notre ami Blatter, il a été à la direction de la FIFA à partir de 98, mais il avait commencé en 81, et on a ce phénomène de corruption qui commence en 82. Bon, voilà.
Coïncidence.
Donc voilà. Ensuite, donc on arrive là, on est donc début des années 2000, et l'affaire est révélée au milieu des années 2000, pardon. Et on continue, et on arrive en 2014. 2014, c'est l'annexion de la Crimée par la Russie. Et ça conduit des responsables politiques, notamment britanniques et états-uniens, à demander à la FIFA de revenir sur la décision d'organiser la Coupe du Monde 2018 en Russie. Parce que ça a déjà été prise. Non seulement qu'elle soit plus organisatrice, mais qu'elle soit même plus participante. Voilà. Et ce fameux Sepp Blatter, il a dit oui, mais non. Non, on va continuer, parce que toujours pareil, toujours ce côté, nous on est neutre, on ne s'occupe pas de politique. Et il a même établi, c'était un peu gonflé, un parallèle avec l'organisation de entre l'organisation de la Coupe du Monde par la Russie et la politique menée à l'égard des nazis, que ça aurait calmé et que c'est bien de jouer la tempérance avec ces gens-là. Alors c'est marrant, j'ai dû rater un épisode, mais je n'ai pas trouvé ça très tempéré en fait, la suite. Donc ça a peut-être raté en fait leur opération, hein, quelque part. Mais bon.
Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas fait?
Donc bon, ce Blatter, donc il rejette la demande, et la coupe du Monde a lieu en Russie. Et j'y reviendrai, parce qu'on en reparlera dans pas longtemps. Et 2014 toujours, l'ancien président de la Fédération Anglaise de Football, David Treisman, compare à la Chambre des Lords ce fameux Sepp Blatter, donc 8e président de la FIFA, de 98 à 2015. Il le compare à Vito Corleone, et déclare « La FIFA possède une longue tradition de pots de vin, de magouilles, de corruption. Elle se conduit comme une famille de mafieux. La corruption est érigée en système et soutenue par l'absence d'investigation et la plupart des accusés échappent aux enquêtes. » Voilà. C'est-à-dire, là, l'ancien président de la Fédération Anglaise de Foot, on peut quand même croire que...
Il est un peu son sujet.
Voilà. Donc bon, là, ça commence à puer pour notre fameux Sepp Blatter qui va effectivement être dégagé assez vite.
Du coup, tout a changé après.
Tout a changé avec le fameux... l'actuel.
Infantino.
Et 2015, parce que là, on était encore en 2014. 2015, c'est le FIFA Gate, dont vous avez peut-être entendu parler.
La vidéo, non?
En gros, on a sept dirigeants, des très hauts dirigeants de la FIFA qui sont arrêtés à Zurich.
directement, comme ça, sans... à la demande des autorités judiciaires américaines suite à une enquête du FBI de plusieurs années. Donc voilà, on est quand même sur un gros truc. Pour, ouvrez les guillemets, des faits de... présumé de racket, blanchiment d'argent, corruption, dans le cadre de l'attribution de plusieurs coupes du monde, de contrats de marketing qui seraient étalés sur une période de 20 ans. Voilà, voilà. Et ils sont censés être extradés vers les États-Unis, soupçonnés d'avoir sollicité et reçu plus de 150 millions de dollars en pots de vin. Donc là, les sommes augmentent avec le temps. Le 28 mai 2015, les médias qui couvrent l'affaire rapportent que des hauts responsables du comité de candidature sud-africain avaient obtenu de l'organisation de la Coupe du Monde en versant 10 millions. Le Daily Telegraph rapporte que le Maroc, alors l'Afrique du Sud, c'était les jeux précédents, enfin la coupe précédente, pardon. Et en fait, on apprend que le Maroc aurait dû obtenir cette coupe, et finalement, bah non, c'est l'Afrique du Sud, parce que voilà quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, continuons. Et en fait, à la suite de ça, on a remis en cause la désignation de la Russie et du Qatar, du coup. Parce qu'elles avaient déjà eu lieu avant aussi. Mmh. Et à partir du moment où... les pratiques n'ont pas changé, en fait. Donc ça a remis les choses en cause. Et 2015, dernier truc, les Football Leaks. Dernier truc qui nous relie, on arrive à aujourd'hui. Et les Football Leaks, en fait, c'est un site qui est lancé par des administrateurs portugais, avec une communauté de bénévoles internationales qui s'appelle Football Leaks 2015. C'est un WordPress, bon. Et qui est à l'origine de plein de documents confidentiels, et notamment un dénommé John qui communique au Spiegel allemand, donc 2 téraoctets de données. Voilà, voilà. Environ 18 millions de documents de la FIFA qui seront traités pendant pas mal de temps. Et divulguant de temps, en fait. Et c'est ça qui va à la fois mettre fin à l'ère Blatter, justement, et lancer l'ère Infantino, qui est celle, justement, des Coupes du Monde qui ont suivi. D'ailleurs, à noter que le 2 novembre 2018, nouvelle enquête concernant, parce que ça a été donc paru en deux temps, 2018, concernant les Football Leaks, qui vise à mettre en évidence notamment les relations des grands clubs de l'UEFA, alors dirigés par Platini et Infantino, puisqu'il était à l'UEFA avant d'être à la FIFA. On retrouve toujours les mêmes gens, même poste, etc. etc. Et je vais tout de même passer le relais, parce que je pense qu'il est temps.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi mentionner le fait que, en gros, puisque à chaque fois maintenant, la FIFA organise ça dans plusieurs pays, là c'était 3 pays, là, dans 4 ans ce sera dans 6 pays différents, est-ce qu'en fait ce n'est pas un moyen de gagner encore plus d'argent avec la corruption ? Si tu es payé par un pays, c'est beaucoup moins, tu gagnes beaucoup moins d'argent que si tu es payé par 6 pays.
Oui, c'est vrai.
Bon, c'est une...
Voilà, tu fais monter les enchères.
Bon, mais moi, je vais quand même redire ce qui a déjà été dit, mais à un moment, c'est quand même la Coupe du Monde de football, un gros truc de mec. Et c'est pour ça que pour la chanson suivante, le morceau, j'ai choisi celui d'une autrice, compositrice et interprète française qui la chante en anglais. Elle se fait appeler Le Prince Miaou avec deux I à Miaou. Et donc dans cet album Safety First daté de 2009 et plus précisément dans ce morceau qui s'appelle Football Team, elle explique que en gros elle a été refusée dans l'équipe de football parce que ce n'est qu'une sale fille. Moi c'était juste parce que j'étais nul en sport.
Quick with a woman's kill, I can make this bench of guy slip. Slip, guy, slip tight. Slip, guy, slip tight. While I am stuck in this ugly dress, wondering if I'll be. I'm okay. They don't want me in their football team. They don't want me in their football team. They
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et vous écoutez l'émission En panne de sens. Et Luc a un avis, comme tout le monde.
Oui, et un trou du cul aussi. Moi, je voulais vous suggérer de regarder le film dont Sébastien aurait dû parler.
J'ai honte.
Qui s'appelle Shaolin Soccer. Donc, un film chinois. Fait par Stephen Chow, qu'on connaît. Il y a quelques films qui ont été diffusés en Europe, en France. Mais il en a fait beaucoup, c'est une superstar en Chine. Et Shaolin Soccer, c'est pas son film, dans les films qu'on connaît nous, c'est pas le meilleur. Mais je le trouve très intelligent et très rigolo. Et donc, l'histoire de base, c'est un type qui croit au Kung Fu. Ce qui est Stephen Chow croit au Kung Fu, hein, il pense que c'est un sport, une activité physique très bien et qui permet aux gens d'être mieux dans leur vie, etc. Donc tout ce qu'il dit de façon un peu neuneux dans le film, il le pense en réalité. Et comme ce gars dans une Chine qui est en train de s'occidentaliser avec de la société de consommation, etc. Il n'arrive pas à faire valoir ce truc traditionnel et donc il va décider de remonter une vieille équipe et de faire du foot à la place avec leur technique de kung-fu pour essayer de convaincre les gens de s'y mettre. Voilà, le film est très, très rigolo et beaucoup plus intelligent qu'on veut bien le croire.
Puis surtout, c'est un film très populaire pour parler d'un sport populaire. Donc pour le coup, comme on était un petit peu à charge pendant cette émission, c'est aussi une belle...
Mais ça parle de corruption, ça parle de violence dans le sport, ça... pas mal de choses. Et il y a un petit détournement de product placement que j'aime bien aussi. Voilà. Sébastien, toi, c'est quoi ?
Mon conseil a été soufflé par Camille, qui n'a pas pu être présente ce soir, alors que, contrairement à moi, elle est passionnée par le ballon rond. Alors, quand je dis qu'elle se passionne pour le ballon rond, en fait, je ne parle pas de l'activité sportive, ni du spectacle de millionnaires en short qui courent sur du gazon. Non, je parle du ballon lui-même, en fait, et de sa fabrication. Alors, je vous recommande donc la lecture d'un article publié le 11 juin 2026 et en accès libre sur le site internet de la revue Pour la Science. On mettra les références sur le site. Donc, sous la plume de la doctorante en mathématiques Emma Asson, vous y apprendrez qu'à l'occasion de la Coupe du Monde de 2026, la forme du ballon a été modifiée, figurez-vous. C'est de la triche. Fini les hexagones et les pentagones, désormais c'est le tétraèdre qui est à l'honneur.
Oui.
Et l'article explique notamment que le ballon de foot est un objet mathématique complexe parce que l'idée c'est de faire une sphère, alors que bah, forcément quand on le construit c'est avec des formes géométriques planes. Et vous apprendrez aussi du coup qu'il y a certaines formes parfois très sphériques qui sont pas très adaptées, parce que notamment c'est la triste histoire du ballon Jabulani qui a été recalé après la Coupe du Monde de 2010, justement parce que bah, globalement il était trop sphérique et du coup son comportement était devenu totalement imprévisible pour les joueurs. Voilà la preuve, s'il en fallait, que tout ne tourne pas très rond dans le monde du football.
Oui, ce que tu disais me fait juste penser à un truc dans les lectures que j'ai eues, c'est que oui, il y a des footballeurs millionnaires, mais en réalité il n'y en a pas tant que ça. Mm-hmm. Et la plupart des joueurs sont en réalité pas très très bien payés sur leur carrière, en fait, si on fait le bilan et la durée de leur carrière.
Surtout bon. Quand on sort de l'Europe et des oui. joueurs qui jouent dans les grands clubs européens.
Et toi, Yann, du coup ?
Alors, bah moi, c'est aussi quelque chose qui m'a été conseillé par Léo, en l'occurrence. Et effectivement, c'est vachement bien. Et c'est un docu Netflix en quatre parties. Ça ne doit pas être courant de vanter Netflix sur Radio Libertaire, mais bon, là, en l'occurrence, ça tombe dans le sujet. C'est un docu qui s'appelle FIFA Uncovered, de Daniel Gordon. En français, c'est FIFA, ballon rond et corruption, justement. Qui est sorti donc docu en quatre parties, sorti en 2022, qui dit de manière beaucoup plus détaillée, parce que qui dit en 221 minutes à peu près ce que j'ai résumé en 10 minutes ici. Quatre parties, donc la première sur l'arrestation en 2015 dont j'ai parlé il y a quelques instants. L'épisode 2 sur justement le fameux Sepp Blatter et la manière dont dont il a, on va dire, pris en main la Coupe du Monde à ce moment-là. L'épisode 3 sur la sélection de la Russie et du Qatar et la manière dont ça s'est passé, justement, plus que douteuse, etc. etc. Donc c'est vraiment un truc que je recommande pour les gens qui s'intéressent un peu plus aussi au sujet, parce que ça creuse beaucoup plus.
Si on vous a pas suffi, en gros, vous pouvez aller écouter ça.
Ah, si vous voulez y passer... Si vous préférez passer 3 heures à vous renseigner plutôt qu'une et demie, effectivement, sur le sujet, ce sera beaucoup plus compétent. Enfin, ça, beaucoup plus complet, pardon.
Oh, pas compétent.
Oui, compétent aussi, mais complet.
Moi, ma recommandation, c'est la série Ted Lasso, qui est une série créée par Bill Lawrence, Jason Sudeikis, qui joue d'ailleurs le rôle de Ted Lasso, Brendan Hunt et Joe Kelly, qui est produite par Apple TV, dont la saison 4 va sortir au début du mois prochain. Et c'est une série qui, qu'on aime le football ou non, est un vrai petit bijou de fraîcheur, avec des personnages extrêmement attachants et un héros qui est un homme gentil et bienveillant. Et parfois, ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage mis en avant dans des séries.
Eh bien, merci Léo.
Merci beaucoup.
Bien, on va bientôt s'arrêter. En conclusion, donc, je rappelle que notre émission se déroule tous les 2e et 4e lundis à 21h. Nous allons faire une pause pendant le mois d'août. Donc on se retrouve le 14 septembre, lundi 14 septembre. Voilà, donc on met les références qu'on utilise pour faire nos chroniques et les enregistrements sur le site de la radio, radio-libertaire.org. Alors là, dans la chronique, dans la rubrique podcast. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur je l'ai.lu, où on partage notamment des articles et éventuellement un petit peu, on annonce, bon, pas toujours, mais on discute un petit peu des sujets qui nous intéressent. Nous avons également mis en place une newsletter, Sébastien qui a fait ça, voilà. En panne de sens tout attaché, @proton.me. Oui, non, c'est comme ça que ça se dit. Me. Je suis pas sûr. Me. Et sinon, c'est bientôt le 45e anniversaire de Radio Libertaire. Donc ça se déroulera à Paris le 7 et 8 novembre. Il y aura des tables rondes et des concerts, donc ne ratez pas ça. Et donc, pour nous quitter, un dernier morceau. Léo, c'est toi qui l'as choisi. De quoi s'agit-il ?
Tout à fait. Et tant que j'aurai mon mot à dire, on terminera cette émission avec du disco. Donc le morceau que j'ai choisi, c'est I Will Survive de Gloria Gaynor, qui est notamment considérée comme étant la chanson de la Coupe du Monde de 98, de la victoire française, et qui a été de nouveau diffusée massivement à l'occasion de la victoire en 2018 de la France pour la deuxième Coupe du Monde gagnée.
Morceau de 1978, donc il y a comme un...
Exactement, de l'album Love Tracks, donc I Will Survive de Gloria Gaynor.
Salut tout le monde.
Bonne soirée.
Salut. Bonne soirée.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras la première fois que je l'ai vue. Elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, à la où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur.